Alors Michel, pour cette deuxième partie, après cette pause dont j'espère qu'elle aura été fructueuse pour nos auditeurs, revenons sur le PRG qui a fondu dans un grand parti mais qui revient au PRG. Là aussi c'est compliqué.
Oui, mais c'est compliqué, mais c'est tout à fait dans la culture des radicaux de gauche. Hein. Ils pratiquent ce qu'on appelle le courant alternatif. Hein. Ils vont d'un côté, de l'autre, en fait, devant, derrière. Ils sont très très difficiles à suivre. Là, bon, au lendemain des élections catastrophiques, hein, pour eux aussi, quoi, comme pour la gauche en général, bah, les radicaux de gauche vont se dire, mais s'il faut exister, il faut qu'on fusionne avec nos amis, en fait, nos frères valoisiens, autrement on n'existera plus. Donc cela, c'est dans un processus d'unification dont le congrès du 9 mars qui vient là, devait officialiser enfin hein, la fusion entre ces deux courants.
Concorde générale.
Oui. Et puis, patatras, j'apprends, en fait, mais comme tout le monde, je suis pas sûr que tous nos auditeurs soient au courant, hein, que les radicaux de gauche, notamment les régionaux de l'étape, quoi, hein, ce qui compte, entre guillemets, quoi, hein, en plan régional, c'est-à-dire Madame Pinel, hein, c'est-à-dire très 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 proche de Monsieur Baillet, hein, très très proche de Monsieur Baillet et Monsieur Didier Codogno, le premier ministre de la région, avait décidé de revenir effectivement au Parti radical de gauche qui, contrairement à ce que les gens auraient pu croire, en fait, parce que les radicaux sont très prudents, ils avaient maintenu juridiquement la structure vivante.
Ils avaient gardé la poire pour la soif.
C'est ça. Donc, qui se retrouve, bon, il revient en arrière et alors il explique pourquoi.
Alors,
qu'est-ce qui se passe? Et Madame Pinel, bon, qui est quand même une grande stratège, hein, je la cite, hein, dit, mais voilà, on a pris cette décision de quitter, nos amis valoisiens parce que nous voulons créer un nouvel élan qui nous permettra d'être, je parle des radicaux de gauche, hein, au premier rang de la reconstitution, de la reconstruction pour la République et pour la France. Ouh, que ça, Madame Pinel.
Cela est bien dit.
C'est bien dit, hein. En réalité, tout ça est beaucoup plus trivial, en fait. Et contrairement à ce qu'elle prétend, à savoir que bon, ils seraient partis aussi parce que les radicaux réunis vous soutiendraient la liste aux européennes du président de la République. En réalité, pour être plus précis, il se trouve que peu de temps avant cette démission et ce retour au bercail, si je puis dire, Madame Pinel n'a pas du tout apprécié, elle qui était la présidente du Parti radical de
gauche, co-présidente,
mais qui était aussi la présidente du Parti radical de gauche. Elle n'a pas du tout apprécié que son collègue, tout aussi radical de gauche qu'elle, Monsieur Jacques Mézard, ancien ministre de Monsieur Macron, avait déjeuné avec Monsieur Laurent Hénard, son frère valoisien, tout aussi radical avec Macron, pour justement discuter des prochaines européennes.
Voilà,
elle a pris ça par la presse, elle n'a pas du tout été contente, elle a dû certainement apprendre qu'elle ne serait pas sur la liste des européennes.
Elle a pris la mouche. Voilà. Remarquons quand même que plusieurs fois dans cette même émission, Michel, tu avais fait remarquer à quel point pour Didier Codogno, ça serait difficile à tenir le grand écart entre soutenir Macron d'un côté et être premier vice-président de Madame Delga à la région, qui, comme on le sait, ne soutient guère Monsieur Macron.
Oui, mais pareil au plan local, parce qu'il n'est de secret pour personne que Monsieur Codogno, n'est pas dans des relations très courtoises et très très amicales, et en tout cas au plan politique, il n'a pas l'intention de les soutenir avec les socialistes locaux.
Voilà.
Mais peut-être qu'on en dira deux mots justement là.
Aussi. Voilà. Alors deuxième partie, les municipales de 2020 à Narbonne, tu l'avais plusieurs fois laissé paraître en filigrane, alors il semblerait que cela...
Jean-Claude, qui pouvait imaginer une seule seconde que le député de La République En Marche de la deuxième circonscription dans laquelle Narbonne se trouve...
Fut absent
du débat en fait, des prochaines élections municipales. Hein. Bon, à tout le moins, La République En Marche avait le choix entre plusieurs stratégies, soit labelliser un mouvement existant, voire adouber un conseil municipal aujourd'hui gérant la ville de Narbonne, ce qui était exclu, a priori, évidemment, hein, soit soutenir une liste qui naîtrait de la société civile et qui pourrait être animée, soutenue, labellisée par La République En Marche. Donc c'est cette deuxième version-là qui a été choisie, si je puis dire, nécessairement, et qui a amené à l'Impéréa, le député de La République En Marche.
Ici présent,
a annoncé dans la presse locale, je l'avais annoncé deux jours avant, un jour avant, peu importe, hein, qu'il avait l'intention, effectivement, de s'impliquer dans nos prochaines municipales et que il soutiendrait soit en tête de liste ce qu'il n'a pas encore décidé, mais je dirais mon point de vue, et soit bon en troisième ou quatrième position, un mouvement qui naîtrait la société civile, dont j'avais d'ailleurs tracé quelques frontières,
en fait, oui, dans un billet précédent, livré en peinture,
en parlant
quelques noms,
oui, de Madame Granier, de Madame Bossis, etc., que d'ailleurs Alain Perrin dans la presse, je l'observe, a plus ou moins repris, en fait, hein, comme par hasard. Alors certains vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça sent tôt, Perrin? Non, pas du tout, quoi. C'est simplement, j'observe, j'analyse, et puis je présente mes conclusions de l'analyse en question. Donc il a, voilà, ça va partir, et évidemment ça crée beaucoup de comment dirais-je,
de turbulence,
de turbulence dans le secteur, quoi, parce que Madame Bossis dit, mais attendez, non, moi je me suis déjà exprimé, bon, pas question que je sois dans ce mouvement là, parce que, sauf que quand dans sa réaction j'observe qu'elle dit que elle soutiendra une liste, elle, dans laquelle il y aura un socialiste, et je note, peu de gens d'ailleurs l'ont observé, qu'elle ne cite pas une seule fois le nom de Nicolas Sainte-Cluque, comme par hasard.
Oui,
je ferme la parenthèse.
On sait aussi qu'ils sont, enfin, il n'y a pas beaucoup d'atomes crochus, on
voilà,
le sait.
La parenthèse, bon, j'observe. Hein. Madame Granier, elle, sur les réseaux sociaux, bon, réagit d'une manière un peu plus évanescente, subtile, en disant, oui, pourquoi pas, en fait, mais sans le dire d'une manière aussi claire. Bref, voilà, donc on est dans cette situation où, avec son franc-parler habituel, Monsieur Perret, qui ne va pas dans le sous-entendu ou dans l'entête, dit voilà, c'est ça, comme ça, bon, et puis on va y aller, quoi. Alors, j'observe quand même que, je le lui dis, en fait, hein, puisqu'il est avec nous, en fait, en ce moment, dans le studio.
Oui, c'est encore pour le moment Michel Santo qui parle de Monsieur Perret, avant que Monsieur Perret, tout à l'heure, ne parle de Monsieur Perret.
Bien sûr. Alors pourquoi moi je dis, bah, il ne sera pas, parce que je l'ai dit clairement, explicitement dans mon billet, hein, sur mon blog, il ne sera pas tête de liste. Alors je dis pourquoi, parce que, bon, ce serait compliqué, il serait obligé d'abandonner son mandat de député s'il était élu, en fait, maire, en fait, par hypothèse, quoi, ce qu'il n'a pas forcément envie, en fait, de faire. Puis deux, bon, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement la véritable cible, en fait, la mairie de Narbonne. Bon, peut-être qu'il y a aussi dans le collimateur la présidence du Grand Narbonne. Enfin, on sait qu'il a été à la fois, bon, conseiller communautaire, mais aussi directeur général adjoint, et que l'agglomération aujourd'hui, ça pèse effectivement dans la gestion d'une commune, même comme Narbonne. Et puis, voilà, de sorte qu'une position numéro 3 pour lui être tout à fait convenable, qui permettrait à la fois de mettre en première ligne, en fait, une personnalité moins clivante, plus consensuelle, et venant, pas forcément, n'ayant pas forcément un profil d'itinéraire trop marqué politiquement, en fait, à droite ou à gauche. Enfin bref, on est dans une situation où, par cette initiative, il est en train de créer une situation, de lever, enfin, un petit peu le couvercle sur une série de mouvements plus ou moins informels, enfin, et de non-dits qui circulent dans le petit landerno local, et qui devrait permettre un petit peu à tout le monde s'exprimer clairement maintenant sur l'avenir. Alors c'est vrai que c'est encore un peu tôt, je pense que les choses vont véritablement prendre forme au lendemain du 28 mai, c'est-à-dire au lendemain des élections européennes, car à ce moment-là, on verra à peu près ce qu'est le rapport de force réel au plan électoral sur une ville comme Narbonne et dans le département.
Cela étant dit, avant de marquer la pause, je rappelle que notre invité, c'est justement Alain Perrin, et que si on veut en savoir un petit peu plus sur le sujet, eh bien, il serait bon de rester à l'écoute. À tout de suite.